Bled revienne là-dessus. Il faut s'organiser pour combattre à côté de nos compagnons, mais il faut combattre d'abord et avant tout l'influence religieuse chez nous, dans nos têtes.
Quoi. C'est-à-dire combattre au fond l'installation, l'ignorance, enfin de l'ignorance provoquée.
C'est vraiment ça. Vous devez vous éduquer. L'Église catholique, ne veut pas vous éduquer, donc vous devez vous en détacher et vous devez vous former par vous-même, ce que beaucoup ont fait à l'époque.
Et c'est très touchant parce qu'il faut imaginer quand même qu'elle écrit des lettres avec ses maigres moyens. C'est quelqu'un qui, vous l'a rappelé tout à l'heure, a été très très peu à l'école, si elle y a été. Et donc voilà, des lettres un peu naïves, un peu candides, mal fichues parfois.
Oui, personnellement, ayant eu l'occasion parfois de faire des comparaisons avec d'autres, je trouve qu'elle arrive encore, c'est remarquable, avec si peu d'instructions à écrire de manière assez correcte, mais c'est vrai que c'est très naïf, on sent que ça vient des tripes.
Hein. Il lui a fallu beaucoup de courage, sans doute pas que de la colère, mais du courage aussi.
Oui, il faut être bien conscient qu'à l'époque, donc les syndicats vont être autorisés à partir de 1866, mais le patronat est tout puissant. Chez Simonis, on n'engageait pas quelqu'un si on n'avait pas le certificat de baptême. Donc une femme qui osait se révolter ainsi, d'ailleurs elle a perdu plusieurs de ses emplois successifs au fur et à mesure qu'elle était repérée.
Alors elle ne va pas rester seule, hein, Marie Mineure, d'autres vont la rejoindre, une mademoiselle Dubois par exemple, Hubertine Ruette aussi. On sent d'ailleurs une sorte de concurrence un petit peu entre toutes ces femmes qui veulent prendre la parole.
Oui, il y a un moment de fait où on voit 3-4 noms qui apparaissent, et tantôt c'est une qui signe le communiqué, tantôt c'est l'autre qui signe la convocation, etc. Oui, il y a peut-être une rivalité, en tout cas c'est Marie Mineure qui s'est imposée comme une espèce de leader, mais elles étaient, ce qui est énorme pour l'époque, et même peut-être aujourd'hui on considère encore que c'est beaucoup, elles étaient 300 à être inscrites dans cette section des femmes de l'Internationale verviétoise.
Ce sont des pétroleuses.
Oui, donc le mot pétroleuse était utilisé par la presse de droite à l'époque par référence à la Commune de Paris. Donc 2 ans plus tôt, la Commune de Paris, donc l'insurrection prolétarienne qui s'est achevée par le massacre de 20 000 personnes par les troupes de versaillaises, mais qui avait été précédée par des incendies un peu partout dans Paris, et la légende avait couru que c'était des femmes qui mettaient le feu en jetant du pétrole, etc. De là le nom de pétroleuse, mais qui signifie, ça veut dire, c'est une militante très énergique. Les rapports de police disent d'ailleurs ça, c'est une militante à surveiller particulièrement.
Quoi. On va voir d'ailleurs le rôle de la police. Ce sont effectivement, vous l'avez dit, Frédéric Joris, des gens qui sont extrêmement surveillés. Ce qui est important aussi de préciser, c'est que ces femmes donc, qui comprennent l'importance de l'association, veulent lutter avec les hommes, pas contre, avec les hommes.
Tout à fait. Ça, c'est tout le temps le discours. Nous devons nous organiser, non pas contre eux, mais pour que ensemble nous puissions changer le monde, nous devons les aider à changer le monde. C'est un féminisme extrêmement positif à ce point de vue-là.
Le 16 février, matin, celui qui aurait essayé de les arrêter vous dit où il était déshabillé, où il était mort. C'était vraiment... je dois même dire que par moments, ils m'ont fait peur. Parce que vous savez, quand les gens sont déchaînés, vous savez ce que c'est les émeutes, hein.
Les femmes réclament l'égalité de salaire avec les hommes en vertu du traité de Rome. À la FN, elles gagnent 25 francs l'heure, soit 7 francs de moins que le manœuvre le moins bien payé. Charlotte Augustin mène la fronde.
Nous voulons 5 francs. Hein. On avait dit, on réclame 5 francs. Vous savez, quand on fait des grèves, on demande toujours plus pour avoir moins.
Un jour dans l'histoire.
Voilà ici un document de la Sonima qui montre que, évidemment, le combat ne s'arrête pas avec Marie Mineure. Ici, on était dans les années 60. Alors, on l'a déjà un petit peu évoqué, Frédéric Joris, les militants et les militantes sont étroitement surveillés par la police.
Oui, beaucoup plus qu'on ne peut l'imaginer. La police parvient à infiltrer toutes les réunions de toutes les organisations ouvrières, mais jusqu'au sommet. Il est très très difficile d'identifier d'ailleurs les indicateurs. Beaucoup d'archives ont été détruites, mais une série exceptionnelle existe encore aux archives de la préfecture de police de Paris. Parce que les indicateurs de police étaient des indicateurs de la police belge, mais aussi française. La France surveillait beaucoup ce qui se passait en Wallonie de crainte d'une révolution contagieux.
Alors Marie Mineure se qualifie elle-même de socialiste révolutionnaire. Il faut bien comprendre aussi qu'elle va multiplier les meetings un petit peu partout en Belgique. Oui, en tout cas, surtout en Wallonie.
Oui, surtout en Wallonie, mais et à Bruxelles aussi. Ouais. Et c'est ce qui explique que un siècle après, les militantes louviéroises, hein, on y faisait allusion au début de l'émission, aient retenu ce nom de Marie Mineure. C'est à force de l'avoir vue, entendue, en Hainaut. Et d'ailleurs, elle pensait qu'il devait s'agir d'une ouvrière du Hainaut. Alors qu'en fait, c'était notre verviétoise qui était appelée à gauche, à droite, pour aller prendre la parole.
Et vous montrez, hein, par des documents, dans votre ouvrage Marie Mineure, Marie Rebelle, qu'elle dérange beaucoup. Hein. Il y a des signalements à la police, etc. Mais elle ne sera jamais arrêtée, hein, emprisonnée.
Non, jamais. À un moment, elle a dû déraper sans doute dans un disque. Enfin, je dis déraper, mais la police dit qu'elle a le verbe très énergique. À un moment, on a ouvert des poursuites contre elle, mais ça n'a manifestement pas été très loin. L'indicateur de police lui-même écrit dans son rapport, le Bouchard, qui considère que c'est une maladresse, parce que justement, ça provoquait aussi des réactions à ce genre de choses.
Alors, son premier époux, Jean-Joseph Bastin, est mort en 1882. Il avait 57 ans. Elle se marie assez rapidement, enfin, l'année suivante, avec François Maréchal. Jusque quand milite-t-elle, Marie Mineure ?
Fin 19e siècle, jusque vers 1900. D'après ce que j'ai pu constater, je ne pense pas qu'elle était encore active ensuite. Mais jusqu'à la fin du 19e siècle, ça veut dire qu'elle a 70 ans. Ouais, hein, ouais. Et elle est toujours dans le coup, ce qui est assez long, hein, comme période de militance. À une époque où il n'y a pas quoi que ce soit à obtenir à la clé. Hein. Il n'y a pas un mandat, il n'y a pas rien. C'est vraiment du désintéressement pur.
C'est de la conviction pure. Elle meurt, elle se retire d'abord à la campagne, hein, et elle meurt le 18 mai 1923. Pas une ligne dans la presse. On explique ça comment ? Là aussi, une société phallocrate, machiste.
Non, là, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je crois, enfin, heureusement pour elle, elle a vécu très tard, mais malheureusement, pour l'histoire, elle est morte après le conflit de 14-18. Mmh. Or, 14-18, c'est la grande boucherie. Après-guerre, ben, les journalistes, beaucoup sont morts sur le front. C'est une nouvelle génération, que ce soit dans les journalistes ou même dans les dirigeants syndicaux, et les vieux militants d'avant 14, tant que ce n'est pas des personnalités, Jean Van der Velde, sont complètement oubliés. C'est un réel oubli. On citait tout à l'heure Frédéric-Joseph Thiry, le fondateur de l'Internationale à Verviers. Il meurt la même année. Pas une ligne non plus. Seuls les leaders ont survécu dans la tête des militants, de la génération suivante de militants.
Voilà, retrouvez donc cette Marie Mineure. Marie Mineure, encore une fois, Marie Mineure, Marie Rebelle, aux éditions Avant-Propos. Merci beaucoup, Frédéric Joris.
Merci de m'avoir invité, surtout.
La première,
13h15, 14h30,
un jour dans l'histoire.
Frédéric Joris était avec nous, il est l'auteur de Marie Mineure, Marie Rebelle, et cette émission, vous la retrouvez dans la collection 1000 jours dans l'histoire, rtbf.be/1000jours.
13h15, 14h30,
un jour dans l'histoire,
sur la première. Soir Mag.
Soir Mag vous invite à la noce. Dans un hors-série exceptionnel contenant des documents inédits, Soir Mag vous fait revivre les mariages de nos 7 rois et reines. Les secrets de nos mariages royaux. Disponible au prix de 9,90€ chez votre marchand de journaux.
Soir Mag.
L'info à tous les temps. Un jour dans l'histoire sur la première.
Laurent de Hausset.
Bertrand Haine nous raconte aujourd'hui la mésaventure survenue à Anne-Marie Lizin, grande figure du PS. Anne-Marie Lizin qui, en 1983, fait la une des médias. Elle est arrêtée en Algérie. Elle voulait ramener en Belgique 3 enfants enlevés à leur mère par leur père algérien.
Un jour dans l'info.
Voici l'histoire d'un coup de force, celui de la députée socialiste Anne-Marie Lizin. Elle s'infiltre en toute illégalité en Algérie pour ramener des enfants victimes d'un rapt parental. L'affaire va faire beaucoup de bruit. Ce 2 février 1986, le JT de la RTBF s'ouvre sur une affaire très délicate. 2 Belges ont été arrêtés en Algérie, et ce n'est pas n'importe qui, une députée européenne et un journaliste.
Bonsoir, une affaire très délicate entre l'Algérie et la Belgique. Elle implique 2 ressortissants belges, et pas n'importe lesquels, qui ont été arrêtés vendredi sur le territoire algérien.
Anne-Marie Lizin,
et Jean-Paul Procureur se sont donc rendus en Algérie dans le plus grand secret et avec des faux passeports fabriqués dans la ville de Huy, dont Anne-Marie Lizin est bourgmestre.
Mais où l'affaire se corse, c'est quand on apprend qu'Anne-Marie Lizin et Jean-Paul Procureur se sont rendus en Algérie sous la fausse identité des époux de Nemostier.
Leur objectif, ramener trois enfants issus d'un mariage mixte belgo-algérien. La mère a obtenu la garde, mais le père les a fait revenir en Algérie pour les séquestrer. Un cas typique de rapt parental et un blocage judiciaire et diplomatique entre les deux pays. La mère des trois enfants, Christiane Dequel, intervient en direct à la télévision. Elle lit les lettres que ses enfants lui envoient d'Algérie.
Par cela, je ne vois plus rien à te dire, à part que je t'aime très très fort et que j'espère bientôt rentrer. Grosse bise à tout le monde, je t'embrasse bien fort, Léla.
C'est la seule chose qui compte à mes yeux.
Je pense qu'on demanderait n'importe quoi.
Leur seule chose qu'ils demandent, c'est de revenir vivre avec moi et vivre en Belgique. Alors je pense que ce ne sont plus des bébés, ce ne sont pas des enfants non plus. Ils ont 18, 16 ans et 15 ans.
L'affaire est très médiatisée. Il y a d'un côté l'émotion, mais aussi des enjeux diplomatiques et maintenant politiques, avec Anne-Marie Lizin qui a mis les pieds dans le plat. Ça deviendra une habitude. D'ailleurs, tous les politiques sont interpellés. Le président du PS, Guy Spitals, soutient-il sa députée européenne? Eh bien, il marche sur des œufs, avec un art consommé de beauté en touche.
Or, le problème de principe, ce qui nous importe maintenant dans ce cas qui crée tant d'émoi, c'est de tirer de difficultés et Anne-Marie Lizin et Jean-Paul Procureur, et moins on fera de commentaires, j'en ai l'intime conviction, sur base de ce qui m'a été dit, plus on sera utile à ces deux personnes. Et moi, pour ma modeste part, c'est ce à quoi je veux m'appliquer.
Pourtant, le coup d'Anne-Marie Lizin met la Belgique en mauvaise posture. Le gouvernement Martens, composé de libéraux et de socio-chrétiens, critique beaucoup la méthode, allant même jusqu'à parler de tentative d'enlèvement orchestrée par Anne-Marie Lizin.
Si le Parti socialiste reste solidaire d'Anne-Marie Lizin, le Parti social-chrétien s'inquiète de ce qu'elle ait cru devoir procéder à un véritable enlèvement. Et le PRL parle, lui, carrément d'une démarche maladroite et illégale.
Après 5 jours passés en prison, Anne-Marie Lizin et Jean-Paul Procureur sont relâchés. Ils reviennent en Belgique, mais sans les enfants. Les journalistes sont là, par contre, en nombre, ses supporters aussi. Et ça se bouscule à Zaventem.
Les autorités algériennes nous ont demandé de revenir dans les 15 jours avec la maman et bien entendu avec monsieur le procureur pour régler, disons, et autoriser convenablement le droit de visite et la discussion avec, pour la suite, le retour de la fille et des garçons.
Anne-Marie Lizin se fraye un passage dans la meute de photographes et de caméramans. Ses supporters sont là et puis son père aussi qui l'attend avec un bouquet de fleurs. Anne-Marie Lizin versera même quelques larmes.
Maman, on n'est pas
fait. Non, ça l'a impressionné.
Ça a impressionné trop.
Ça me semble, trop long, c'est pour ça que je suis venu.
Voilà. Bon, voilà. On arrête maintenant.
Anne-Marie Lizin est acclamée, mais elle revient pourtant sans les enfants et avec une enquête ouverte pour faux et usage de faux passeports. Et puis, une énorme polémique qui met la diplomatie belge dans l'embarras. Les affaires étrangères auraient-elles été au courant, voire même complices? Les ministres, eux, par contre, ne savaient rien. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Wilfried Martens, le Premier ministre, est sous pression.
Vous, personnellement, vous étiez au courant de ce qui se passait au département des relations extérieures?
Pas du tout. Pas du tout, je n'en savais rien.
Trouvez-vous normal que des tractations pareilles puissent être engagées aux relations extérieures sans que le cabinet du Premier ministre en soit averti?
Je ne trouve pas normal que le ministre des Affaires des Relations extérieures ne soit pas au courant. Il n'était pas au courant. C'est ce qu'il a confirmé encore au Conseil des ministres ce matin. Et a fortiori, le Premier ministre n'était pas au courant.
La polémique enfle durant un mois. Anne-Marie Lizin, députée européenne, se mêle des affaires des autres. Elle met les pieds là où elle ne devrait pas. Mais elle parvient à entamer des négociations avec l'Algérie et avec le père des enfants. Le 10 mars 1986, elle obtient le retour des trois enfants.
11h05 ce matin à Bruxelles National. L'avion venant d'Alger s'est posé sur la piste avec un peu de retard sur l'horaire. Dans la salle transite, une femme, une maman. Madame Dekel attend avec impatience l'arrivée des passagers. Parmi ceux-ci, Leïla, Dilali et Admet, ses enfants. Ils reviennent définitivement en Belgique, jusqu'aux grandes vacances tout au moins. C'est le résultat heureux d'une négociation menée la semaine dernière entre les parents séparés des enfants, les autorités algériennes et le député européen Anne-Marie Lizin.
Pour nous, c'est une affaire conclue. Donc, les enfants reviennent. On a discuté des conditions dans lesquelles se faisait le retour, un calendrier très court, et pour les conditions, eh bien, ils repartiront pour les vacances en Algérie. Et Madame Dekel s'est engagée à accueillir le papa quand il viendra en Belgique pour les voir.
Anne-Marie Lizin et Jean-Paul Procureur ont donc obtenu ce qu'ils voulaient en se rendant en Algérie. C'est d'autant plus vrai que, suite à cette affaire, d'autres cas de raptes parentaux ont été résolus entre la Belgique et l'Algérie. Jean-Paul Procureur a continué sa carrière à la RTBF, puis est devenu député et sénateur CDH. Anne-Marie Lizin a acquis, elle, une solide réputation de femme politique féministe, déterminée et engagée, prête même à fouler certaines règles pour obtenir ce qu'elle croit juste. Pour récupérer des enfants en Algérie, comme dans cette histoire, ou plus terre à terre pour se faire réélire dans sa ville de Huy. En mai 2015, elle est condamnée pour prise d'intérêt pour avoir demandé à des employés de la ville de distribuer des tracts à son nom avant les élections. Elle est décédée quelques mois plus tard.
Anne-Marie Lizin, arrêtée en 1983 en Algérie, c'est une histoire racontée par Bertrand N. Et c'est un épisode de la série Un jour dans l'info, réalisé par Bertrand avec Hélène Maquet et Jérémy Bocquet.
Duel avec toi, duel soleil contre moi, duel soleil.